Donc, en cette période, cette fin, début d'année, c'est une période où l'on offre beaucoup de cadeaux, quoi, souvent. Alors, je ne sais pas si vous avez eu à offrir des cadeaux ou si on vous en a offert. Hein? Peut-être ni l'un ni l'autre, peut-être les deux. mais là n'est pas l'important. Vous avez peut-être remarqué que c'est parfois de plus en plus difficile, n'est-ce pas, d'offrir des cadeaux aux gens dans notre société où on a tout, hein? Et on a toujours peur de se rater, de passer à côté, ou d'offrir quelque chose que quelqu'un n'aime pas ou que quelqu'un a déjà. Et il semble plus facile de dire aux gens, dis-moi, qu'est-ce qui te ferait plaisir, hein? Demande-moi ce que tu veux, là, que je t'achète ou quelque chose comme ça. Je vous pose la question, je sais pas si vous avez eu à répondre à une telle question et ce que vous avez dit à la personne, hein, qu'est-ce que vous auriez aimé avoir. Mais imaginez que Dieu vous pose cette question. Dis-moi ce que tu veux que je te donne. Demande-moi ce que tu veux que je te donne. Quelle serait notre réponse, hein? Honnêtement, quelle serait notre réponse. Peut-être on ferait passer dans notre tête tout ce qu'il y a qui nous concerne et puis on dirait, ah, telle situation, il faudrait qu'il m'arrange ça là, parce que si vraiment j'avais ça, ça serait bien, ce serait un poids de moins. Hein, et je ne demande pas beaucoup de choses, mais juste que, hein, juste qu'il m'enlève cette situation, ou bien juste que cette personne ne soit plus dans mon champ visuel, je ne sais pas. Hein. Des fois, c'est des choses comme ça. Et savez, Dieu a posé cette question, hein, vous vous rappelez, à qui? À Salomon. Il a posé cette question à Salomon. Et nous allons regarder ce texte aujourd'hui. Je pense c'est quelque chose que nous pouvons garder dans ce début d'année comme une résolution que nous pouvons prendre aussi. Hein, c'est le temps des résolutions, le mois de janvier, souvent. Il ne faut pas faire les choses par tradition, mais parfois, c'est bien aussi d'avoir des choses que l'on fixe devant soi comme objectif. Et nous allons lire donc dans 1 Roi chapitre 3, 1 Roi chapitre 3, et à partir de verset 3, 1 Roi chapitre 3, verset 3, on retrouve le texte aussi en deux chroniques, partie en deux chroniques, surtout là à partir du verset 10, deux chroniques 1, pardon, 1 Roi chapitre 3. Salomon aima l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur, mon père, parce qu'il marchait en ta présence avec ta fidélité et dans la justice, pardon, dans ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Verset 9, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple et pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et la gloire, de telle sorte qu'il y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Voilà, donc on va s'arrêter là pour l'instant, ici. Quelque part, je ne sais pas comment on pourrait intituler cela, mais moi j'ai intitulé cette méditation « Demander un cœur qui écoute ». Et c'est peut-être une résolution que l'on pourrait avoir pour cette année. C'est de demander à Dieu un cœur qui écoute, un cœur sage et un cœur intelligent. La première chose que je veux souligner ici, c'est que c'est Dieu qui demande de prier. Et donc pour un cœur intelligent, il faut prier. Et c'est Dieu qui demande de prier. Donc la prière exigée. Quelle est la prière exigée par Dieu ici? Demande ce que tu veux que je te donne. Alors, on ne va pas voir tout en détail ce passage, mais juste quelques points ici pour fixer notre pensée. Demande ce que tu veux que je te donne. C'est Dieu qui invite ici à prier et à lui demander. Et Dieu sait que ce dont Salomon a besoin. Il sait ce qu'il faut pour diriger le peuple. Il sait tout ce dont Salomon pourrait avoir besoin comme compétences, comme ressources humaines, etc., pour diriger ce peuple. Il aurait pu dire, voilà, je te donne ça, parce que tu en auras besoin pour faire ceci ou pour faire cela. De même que quand il avait utilisé les personnes dans le tabernacle pour construire, il leur a donné de la sagesse pour qu'ils puissent faire des objets avec artistement travaillé. Mais ici, Dieu ne dit pas, voilà, je te donne ça. Dieu dit, demande ce que tu veux que je te donne. Autrement, c'est comme s'il dit, prie-moi, invoque-moi, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Donc Dieu, ici, il exige la prière. Et il veut que Salomon vienne à lui dans la prière, que Salomon le sollicite. Et quand on lit l'Écriture, il y a beaucoup d'autres endroits, hein, on ne peut pas les voir tous, mais où Dieu appelle à le croyant ou les hommes à venir à lui dans la prière. Est-ce qu'il y a des versets qui vous viennent à l'esprit? Où Dieu, voilà, à Jérémie 33, invoque-moi et je te répondrai. Dieu dit, voilà, tu dois chercher, tu m'invoques. Un autre encore. Voilà, c'est Jésus qui dit ça. Il dit, demandez et vous recevrez. Et l'apôtre Jacques dit même, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas ou que vous demandez mal. Et si Dieu sait pourtant ce dont on a besoin. Mais il dit, demandez. Encore d'autres, vous avez un autre qui vous vient à l'esprit? Oui, voilà, prier à des passages qui invitent à prier sans cesse. Jean 14, 14, j'ai noté celui-ci où il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc c'est une manière de dire, demandez et je ferai, ici. Et puis d'autres que vous pouvez avoir, hein, persévérer, par exemple dans la prière, tout ça en Colossiens, chapitre 4 et au verset 2. Donc la prière exigée, on pourrait dire, hein, ici, Dieu veut que son enfant, le croyant, vienne à lui dans la prière. Et pourquoi, à votre avis? Oui, pour dépendre de lui. Dieu sait ce dont on a besoin. Il n'a pas besoin qu'on lui dise qu'on a besoin de quelque chose. Hein. Quand il dit « demande-moi », ce n'est pas parce qu'il ne sait pas. Hein. Nous, on peut dire ça à nos enfants, mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent. Hein. Mais Dieu, il connaît toutes choses, il sait ce dont on a besoin. Donc, on ne lui apprend rien quand on vient énumérer nos besoins, hein, mais cela nous apprend en tout cas à être dépendant de lui. Parce que s'il donnait constamment comme ça tout de suite, on ne serait pas dépendant de Dieu. Et parfois, il nous demande de persévérer, il ne donne pas forcément tout de suite, pour qu'on puisse continuellement venir à lui. Et on a beau être le roi Salomon, avoir des connaissances, avoir des choses, on a besoin de venir à Dieu pour être éclairé. Et Dieu lui-même, il exige. Hein. Donc c'est important de retenir ici que la prière est exigée par Dieu. Mais une deuxième chose que l'on voit aussi, c'est que la prière, elle doit être exercée. Donc la prière exigée et la prière exercée. Qu'est-ce que demande Salomon? Comment il va prier Dieu? Est-ce qu'on peut regarder cela ensemble dans le texte? Qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Où se trouve sa demande? Verset 9. Et qu'est-ce qu'il demande? Un cœur intelligent. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Ok. Ça veut dire quoi un cœur intelligent? Quand vous lisez ça, à quoi vous pensez? Un qui réfléchit bien, d'accord? Qui exerce du discernement, oui? Qui est lucide, très bien? Qui est sage, d'accord? Après, le mot sage est difficile à déterminer, mais il y a ça dedans, hein, sage. D'autres choses qui vous viennent à l'esprit? Cœur obéissant, voilà. Alors, j'ai regardé un peu dans le dictionnaire biblique, hein, et le mot intelligent, qui est traduit ici intelligent, est très utilisé dans la Bible, et est utilisé, traduit souvent par beaucoup d'autres verbes, et on trouve entendre parmi eux, parmi d'innombrables, hein, entendre, écouter, comprendre. Et si vous lisez d'autres traductions de la Bla, on a lu dans, là j'ai lu dans ma version Nouvelle Édition de Genève de 1979, mais si vous lisez dans la version Darby, par exemple, vous allez trouver ce verset, verset 9 est traduit, donne donc à ton serviteur un cœur qui écoute, hein, d'où le titre de la méditation, demander un cœur qui écoute ici, hein, donne donc à ton serviteur un cœur qui écoute. Et ça, c'est le sens premier de intelligent. C'est pas juste une faculté à mettre les choses ensemble, à réfléchir vite, mais c'est d'abord une faculté à écouter. Et écouter de manière à comprendre et de manière, comme a dit Françoise-Hélène, à obéir aussi à Dieu. C'est ça qu'il y a dans ce sens du mot intelligent ici. Dans la nouvelle Bible Second, c'est écrit, donne-moi un cœur attentif. Un cœur qui fait attention, qui prête l'oreille. Et puis dans la seconde 21, il est dit, accorde à ton serviteur un cœur apte à écouter. Vous voyez, il y a beaucoup d'autres traductions qui insistent sur cet aspect du verbe. Donc il y a donc ici l'idée d'écouter dans le but de quoi? D'apprendre et puis d'obéir. C'est ce que Salomon demande quand il demande ce cœur intelligent. Mais il dit lui-même pourquoi il veut ce cœur intelligent. Verset 9, pourquoi faire? Voilà, il est dit pour juger ton peuple et pour discerner le bien du mal. Donc autrement dit, il veut un cœur qui soit capable, on va dire, d'écouter de manière à porter un jugement correct sur les choses et à discriminer entre ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez, c'est vraiment très important ce qu'il demande ici. Donc, être capable de démêler le vrai du faux, c'est ce qu'il demande à Dieu ici, quand il dit un cœur intelligent pour pouvoir discerner. Et donc, un cœur intelligent pour poser un bon diagnostic sur une situation. Et ça, c'est difficile, hein. Nous pouvons tous être dans des situations comme celle-là où nous avons besoin de démêler le vrai du faux, où nous avons besoin de poser un diagnostic sain, un bon diagnostic sur quelque chose. Salomon demande donc un cœur qui écoute. Et je vais dire, mais qui écoute qui et qui écoute quoi? Parce que c'est bien de dire un cœur qui écoute, mais un cœur qui écoute qui? qui écoute Dieu, bien sûr, hein, et puis le peuple, alors dans un certain sens, hein, alors écouter le peuple, ça ne veut pas dire écouter le peuple pour faire la volonté du peuple, mais ça veut dire qui est attentif aussi au peuple, hein, très bien. Donc qui écoute Dieu, qui écoute sa loi, qui écoute sa parole. C'est le point de départ, hein. Être attentif à ce que Dieu dit. Surtout pour un homme qui est dans cette position, il a besoin d'être attentif à la loi de Dieu. Je crois que c'est dans le Deutéronome, j'ai pas, ça me vient comme ça à l'esprit, mais où Dieu avait dit qu'il avait donné une instruction, je pense, je ne sais plus, au roi pour qu'il puisse écrire chaque jour, écrire la loi, faire une copie, écrire de sa main une copie de la loi, qu'elle soit toujours avec lui, afin qu'il ne l'oublie pas et qu'il puisse toujours l'utiliser dans les jugements qu'il aura. Hein. Si je retrouve, je vais vous le donner après, mais c'était important. Hein. Écouter la loi de Dieu de manière à ce que le cœur l'esprit, la pensée soit imprégnée de la parole de Dieu, de la vérité de la parole de Dieu, mais aussi que dans les situations, on puisse agir conformément à cette parole de Dieu. C'est pas simplement l'écouter pour la connaître, mais c'est l'écouter pour la connaître pour soi, qu'elle puisse accomplir son œuvre dans le cœur, spirituellement, mais aussi que cette parole serve dans les décisions qu'il aura à prendre, dans les jugements qu'il aura à prononcer. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Tite, je crois, quand il dit les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être. Vous voyez, ici, il dit ce qui est conforme à la saine doctrine. Il y a la saine doctrine que tu trouves la parole de Dieu, mais maintenant, avec cette saine doctrine-là, tu vas dire aux vieillards comment ils doivent se comporter, d'une manière qui est conforme à la saine doctrine. Donc écouter, ce n'est pas simplement écouter pour savoir ce que Dieu dit, mais c'est écouter pour pouvoir faire pénétrer ces vérités de la parole de Dieu dans les jugements, les décisions, le discernement qu'on aura à exercer. Et ça, c'est la même chose pour chacun des enfants de Dieu. Pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu? Pourquoi nous devons l'écouter? Pas simplement pour avoir une tête comme ça, mais c'est pour que cette parole, elle accomplisse son œuvre de transformation dans notre vie, qui va se manifester par ce que je vais faire tous les jours dans ma vie. C'est-à-dire que ce que je vais accomplir, ce que je vais dire, doit être imprégné de cette connaissance de la parole de Dieu. Il faut que ce que je fais soit conforme à cette parole. Et c'est pour cela qu'il faut la connaître. Et qu'il faut prier pour que Dieu donne un cœur qui écoute. Hein? Si on n'a pas un cœur qui écoute, on ne peut pas utiliser cette parole. Donc un cœur qui écoute Dieu dans sa loi, mais aussi un cœur qui sait écouter, Sylviane a dit, qui écoute le peuple, mais c'est-à-dire qui sait être attentif aux situations. Je crois que c'est ça aussi, c'est important pour un roi qui va diriger ici. Il a besoin d'apprendre à écouter ce que les gens disent. Parfois, on n'écoute pas souvent. Hein. La Bible dit, c'est pour ça qu'elle dit que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. On a toujours quelque chose à dire et on pense qu'on a peu à apprendre et peu à écouter. Mais pour pouvoir tirer un bon diagnostic sur quelque chose, il faut d'une part connaître la parole de Dieu, très bien, mais il faut aussi écouter la situation, écouter les personnes. Et il y a un proverbe qui dit ceci, surtout quand il y a des débats contradictoires. Par exemple, Salomon, plus loin, le premier exemple de sa sagesse qu'on nous donne, c'est quand il y a, à partir du verset, on n'a pas lu ce soir, mais à partir du verset 16, il est dit, regardez ici, alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon seigneur. Moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a accouché. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux, donc pas de témoin. Aucun témoin pour pouvoir apporter quoi que ce soit. Verset 19. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. En passant, je souligne que le roi, il écoute les deux. Il est bien conscient, il dit, l'une dit ça, et l'autre dit cela. D'accord ? Il a écouté les deux. Et ensuite, il dit, apportez-moi une épée, et on verra. Une épée, en apportant une épée, et puis le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Verset 28, tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignait le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour diriger, pour le diriger dans ses jugements. Oui. Donc l'histoire était mise là pour montrer vraiment que Dieu lui avait donné cette sagesse. Imaginez ce que vous auriez fait dans une telle situation. On nous demande 10 fois moins que ça, on se gratte la tête et on ne sait pas trop comment répondre. Et c'est vrai, c'est difficile, il y a des situations qui sont très difficiles. Pas de témoin, rien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Là, il n'y a pas de test ADN, hein, on ne va pas l'emmener à l'hôpital. Voilà. Non, il n'y a pas tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, il faut connaître, et justement, il prie, je ne sais pas, la Bible ne dit pas, mais peut-être qu'il a prié, de son cœur, il a demandé à Dieu la sagesse, qu'est-ce qu'il pourrait faire, etc. Et Dieu lui donne... Cette sagesse, ce cœur intelligent dans lequel il écoute ce que ces personnes ont à apporter comme plainte, etc. Et la Bible dit en Proverbe 18, 17 que le premier qui parle dans sa cause paraît toujours juste. Puis vient la partie adverse et on l'examine. Une manière de dire on ne prend jamais une décision sans avoir écouté les deux parties. C'est ça que nous faisons naturellement le plus souvent. On a déjà décidé qui a raison dans quelque chose. C'est même pas savoir qui a raison, qui a pas raison, mais on est comme ça, n'est-ce pas? Et la Bible dit, non, mais le cœur sage, intelligent, il écoute. S'il y a deux choses, eh bien, je vais, ok, très bien, mais il faut quand même que je regarde là-bas, parce que il faut avoir une pensée, comme on dit, il faut avoir pas qu'un seul son de cloche, hein? Il faut avoir les deux sons. Et la Bible est claire là-dessus. Le besoin de Salomon, c'est aussi le nôtre, hein. C'est celui d'écouter Dieu premièrement, de connaître sa parole, mais de savoir vraiment l'appliquer aux situations, être sage, écouter quand il y a une situation qui nous est proposée, un côté puis l'autre, avant de prononcer quoi que ce soit. Et si on ne sait pas, ben, on ne prononce rien du tout. Apprendre à écouter même avant de parler. La Bible insiste aussi là-dessus, il dit au même Proverbe, chapitre 18, verset 13 dit ceci, « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. » C'est-à-dire que si je... Voilà, dans une discussion, ça nous arrive hein, parfois d'écouter l'autre, mais de chercher juste l'espace libre dans lequel on va pouvoir s'engouffrer pour pouvoir parler. Hein, mais on n'écoute pas vraiment. Hein. On a plus tendance à parler qu'à écouter. Voilà, on parle. Eh bien, ici, ce verset dit qu'il faut prendre le temps d'écouter patiemment tout ce que l'autre a à dire. Et le cœur qui écoute et qui écoute Dieu, il agit aussi de cette manière-là. Il n'est pas prompt à parler, comme l'apôtre Jacques le dit, mais il est prompt à écouter et à prendre le temps avec douceur d'écouter ce que l'autre exprime. Voilà, donc ça c'est, on pourrait dire, la demande de Salomon. Accorde donc à ton serviteur un cœur qui écoute de manière à obéir à ta parole et de manière aussi à être sensible à tout ce que les autres, puisqu'il serait amené à juger plein de situations, tout ce que les autres seraient amenés à lui partager. Une prière exigée, une prière exercée, mais aussi la prière exaucée. On le voit ici, hein. Versets 10 à 12, on va lire cela. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et il dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, ni mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et que l'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Dieu répond à la prière de Salomon, mais le texte dit avant cela que cette demande plut au Seigneur. Alors ma question, c'est pourquoi est-ce que cela a plu au Seigneur? Au passage, ça veut dire qu'il y a des demandes qui plaisent au Seigneur et puis d'autres qui ne plaisent pas. C'est là, cette prière de Salomon, elle a plu au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas égoïste, très bien, elle n'est pas égoïste. Elle est conforme à sa volonté. Il n'a pas pensé qu'à lui. Ok, c'est ça, hein? Donc elle n'est pas égoïste, ça rejoint, pas pensé qu'à lui. Quand on souhaite la bonne année aux gens, qu'est-ce qu'on dit ici? Prospérité. Surtout, on dit la bonne santé. La bonne santé, c'est pour quoi faire? C'est pour avoir une vie longue. Et qu'est-ce que Dieu dit à Salomon ici? T'as pas demandé la santé, t'as pas demandé la longue vie, hein? T'as pas demandé non plus la prospérité, tu n'as pas demandé la richesse, tu n'as même pas demandé la tranquillité avec la disparition de tes ennemis. Hein. Et pour tout, un roi qui gouverne, il espère qu'il serait bien d'avoir un pays en paix, où il n'y a pas de l'attaque par-ci, par-là. Et donc, c'est ce que vous avez dit. Donc, ce qui plaît à Dieu, ici, on pourrait dire, hein, c'est vraiment cette disposition de cœur de Salomon dans sa demande. Si on regarde ce qu'il dit avant même qu'il fasse sa demande, il compte sur la bonté et la bienveillance de Dieu. Dans les versets 6, il dit: « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence et dans ta fidélité, dans ta justice et dans la droiture. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône. » Quelque part, il est en train de dire, c'est ça que je veux aussi, que tu manifestes envers moi cette bonté et cette bienveillance. Il a un cœur qui espère, de même que Dieu a été bienveillant et bon envers son Père, il veut que Dieu soit bienveillant et bon aussi envers lui. Il y a un psaume qui dit ceci, psaume 147, verset 11, dit que le plaisir de l'Éternel est en ceux qui le craignent et qui espère en sa bonté. C'est-à-dire le cœur qui craint Dieu et qui espère en lui fait plaisir à Dieu. Donc on peut dire que ce qui cause le plaisir de Dieu dans cette demande de Salomon, c'est cette disposition de cœur dans laquelle il s'attend à Dieu, à sa fidélité et à sa bienveillance envers lui. Il compte sur ça pour pouvoir, comme Dieu l'a fait pour son père avant lui. Mais je crois qu'il y a une deuxième chose qu'on peut voir ici dans cette disposition de cœur, et vous l'avez dit, c'est que Salomon n'est pas tourné vers lui-même, mais vers le bien du peuple. Ce qu'il demande, ça n'est pas pour lui. Dieu lui dit, puisque tu ne demandes pas pour toi, de manière égoïste, comme vous avez dit, hein. Tu ne demandes pas la richesse aurait été pour lui, hein, sa famille, etc. La longue vie, ça aurait été pour lui, D'accord? L'absence d'ennemis, la mort des ennemis serait été pour son confort personnel. Mais il n'y a rien de ça. Dans tout ce qu'il demande, il demande un cœur qui écoute de manière à faire du bien à qui? Au peuple. Juger bien le peuple, c'est lui faire du bien. Il a fait du bien à cette femme, n'est-ce pas? À qui il a permis de retrouver cet enfant. Et donc c'est ce qu'il veut. Il dit, je suis à la tête d'un peuple qui est très nombreux, je suis un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Et on voit ici qu'il est motivé par le fait de faire du bien aux autres. Compter sur Dieu, sur sa bonté, et faire du bien aux autres. Et la Bible dit, ça fait plaisir à Dieu. Et voilà la demande, ça peut être une résolution pour nous, hein, cette année, de prendre l'habitude de demander à Dieu de nous donner un cœur qui écoute pour pouvoir faire du bien aux autres. Pas pour être orgueilleux avec une connaissance, pas pour être orgueilleux avec une compréhension de quelque chose, mais pour que la parole de Dieu agisse dans notre vie et fasse de nous des personnes qui savons écouter Dieu dans sa parole tous les jours, mais qui aussi peuvent aider d'autres. On est tourné vers les autres. Tourné vers Dieu en comptant sur sa bonté, sur sa bienveillance, et tourné aussi vers les autres pour leur faire du bien. Parfois, nos prières peuvent être un peu égocentrique, un peu égoïste, où on dit « donne-moi », et quand on dit « donne-moi », c'est « donne-moi pour moi », ici. Mais Salomon, il dit « donne-moi pour les autres ». Il dit « donne-moi juste une attitude de cœur qui me permette de faire du bien aux autres », ici. Et quand on lit le prophète Ésaïe, on voit que Jésus, le Messie, hein, le prophète Ésaïe fait parler le Messie à certains endroits. Dans Ésaïe chapitre 50, on trouve ceci au verset 4. C'est le Messie qui parle. Il dit « L'Éternel, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Donc faire du bien par les paroles à ceux qui sont abattus. Mais il ajoute ceci, il éveille chaque matin, il éveille quoi? Mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. On ne peut pas faire du bien aux autres. C'est Jésus lui-même, c'est qu'il est ici. Avant d'avoir un cœur qui est dans une attitude de disciple qui écoute. Spirituellement parlant, on ne peut pas faire du bien aux autres si on n'a pas de relation avec Dieu, si on n'écoute pas sa parole. Et le Messie lui-même dit, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute un disciple. Comment écoute un disciple? Le disciple écoute avec ses oreilles pour se laisser pénétrer de la parole et surtout pour faire quoi avec cette parole? Pour se soumettre et pour obéir à cette parole. Et ici, Ésaïe 54 dit que la langue exercée qui fait du bien vient d'un cœur qui écoute, d'une oreille qui est attentive comme un disciple. Et c'est là la prière que nous devons avoir aussi. Le Messie, Jésus, est le roi parfait, bien plus parfait qu'a été Salomon. Il dit que Salomon a une sagesse et que personne avant lui et personne après lui a eu une telle sagesse, excepté bien sûr celui qui est la sagesse même et celui qui est le roi par excellence. Et lui-même dit ici que pour apporter des paroles qui soutiennent les autres, il faut un cœur qui écoute. Et en Ésaïe 11, regardez Ésaïe 11, versets 1 à 5, Ésaïe 11, versets 1 à 5. Il est question encore du Messie dans cette prophétie. Ésaïe, c'est pas Ésaïe, chapitre 11 et au verset 1, nous lisons « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Ça rejoint ce qu'on a vu avec Salomon ici. Voilà, cet esprit de connaissance, de sagesse, et puis ensuite le jugement que l'on rend sur quelque chose ou sur une situation. Mais il jugera les pauvres avec équité et la parfaite justice. Il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme une verge et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Et bien sûr, on comprend bien qu'il est question du Seigneur Jésus-Christ ici. C'est lui qui a cet esprit et cette parfaite justice, cette parfaite connaissance et cette parfaite sagesse. L'apôtre Paul le redit en Colossiens, je lis Colossiens chapitre 2 et au verset 1, il dit: « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. » Mystère, donc Christ c'est le mystère de Dieu, et en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Pour avoir la sagesse et la connaissance, il faut avoir celui dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Il faut une relation véritable avec Jésus-Christ. C'est lui seul qui permet d'avoir un cœur qui écoute. Et un cœur qui est tourné aussi vers les autres. C'est en Christ, n'est-ce pas, que s'accomplit cela, et c'est en Christ qu'une telle sagesse nous est aussi donnée. Donc voici une résolution pour nous cette année, que nous nous engagions continuellement à prier individuellement, mais aussi en tant qu'Église et les uns pour les autres, que le Seigneur nous donne un cœur qui écoute, afin d'avoir du discernement en toutes choses, dans toutes les situations que nous traversons, soit en tant qu'Église, soit en tant qu'individu, qu'il nous façonne. Et l'apôtre Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, il fait quoi? Qu'il la demande à Dieu qui donne à tous, sans reproche. Et que nous puissions, mais à condition, il dit bien qu'il la demande. Donc prions qu'on puisse demander. Prenons la résolution de demander à Dieu. Et n'agissons pas de n'importe quelle manière. Ne parlons pas de n'importe quelle manière. Mais demandons à Dieu de nous donner d'abord un cœur qui écoute sa parole, qui l'écoute. Et puis de nous donner un cœur affable et doux envers tous pour pouvoir aider. De nous donner un cœur qui discerne d'après sa parole. Mais demandons-le lui. Lui, il dit, demandez-moi, je vous donne. Mais il dit, demandez-moi, si on ne demande pas, on n'aura pas. Donc prions les uns pour les autres qu'on puisse toujours, 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 dans cette année, venir aux pieds du Seigneur pour prier cette prière comme Salomon. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent et sage pour juger et pour discerner le bien et le mal dans tout les domaines de notre Église et aussi de notre vie individuelle à tous. Que la parole du Seigneur fasse son œuvre dans nos cœurs. On va prendre